Est-ce que vous vous êtes déjà senti incompris dans votre souffrance? Vous avez été ou vous êtes atteint peut-être aujourd'hui d'une maladie invisible, un cancer, une maladie auto-immune, une polyarthrite, la maladie de Lyme, qui vous cause des difficultés ou des douleurs internes, mais personne ne peut le deviner, c'est pas comme si vous vous promeniez avec des béquilles ou un bandage sur le bras. Et les gens, ils comprennent pas pourquoi vous êtes toujours si fatigué, ou pourquoi certains mouvements ou certaines activités vous sont si difficiles. Ou bien peut-être que vous souffrez de dépression. Il y a des moments où vous êtes vraiment au fond du trou. Vous ne savez même pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que votre vie, qui semble aux autres parfaitement ordinaire, ben pour vous, c'est un véritable chemin de croix quotidien. Hein, sortir du lit, prendre le bus, faire à manger, ranger la chambre, répondre au téléphone. Vous préféreriez juste disparaître. Et vous n'en parlez pas vraiment, parce que vous savez que les gens ne comprendraient pas. Ou bien vous avez peut-être essayé d'en parler. Vous avez exprimé votre souffrance à un ami. Vous avez essayé de trouver les mots justes. Vous avez été sincère. Vous avez livré votre cœur. Mais la réponse de votre ami vous a montré qu'en fait, il ne comprenait pas. Peut-être que vous avez essayé de parler de vos souffrances à un petit groupe d'amis chrétiens. Ou peut-être que vous avez essayé d'en parler à votre conjoint, ou même à vos parents, ou même à un thérapeute. Mais vous n'avez pas été compris. Ou peut-être que vos souffrances sont essentiellement émotionnelles. Votre cœur est troublé, vos sentiments s'agitent, vous avez des aspirations frustrées, des désirs interdits, vous vous réveillez la nuit dans un tourbillon intérieur et vous n'arrivez pas vraiment à verbaliser ce qui se passe. Ou peut-être que vous n'osez pas le verbaliser parce que vous avez trop peur d'être incompris. Vous avez peut-être honte de ce qui se passe en vous et vous craignez d'être jugé plutôt qu'écouté et compris et soutenu dans votre faiblesse, même par les personnes qui vous sont les plus proches. En fait, douleur physique et douleur morale chez l'être humain appartiennent au même registre. Le médecin catholique Paul Chauchard, dans un petit livre intitulé « La douleur », explique, et je cite, « L'hypothalamus, une toute petite partie du cerveau, l'hypothalamus est le centre de la douleur parce qu'il est le centre des émotions, le siège des réflexes émotifs, de l'affectivité élémentaire inconsciente. » Bref, est-ce que vous vous êtes déjà senti incompris dans votre souffrance, qu'elle soit physique ou morale? À l'inverse, est-ce que vous avez déjà fait preuve d'incompréhension ou d'insensibilité envers quelqu'un qui souffrait? Est-ce que vous avez déjà mis les pieds dans le plat? Est-ce que vous avez déjà été trop pressé de réagir sans avoir pris le temps d'écouter et de comprendre? Est-ce que vous avez déjà augmenté les blessures ou les tourments intérieurs de quelqu'un par des paroles sincères ou spontanées, mais des paroles inconsidérées? Est-ce que vous avez déjà gâché une relation, perdu un ami, creusé un fossé entre vous et un proche parce que vous n'avez pas vraiment compris ses souffrances? Voilà de quoi on va parler aujourd'hui, à travers la suite de l'histoire de Job, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Et je vous rappelle que Job, c'est quelqu'un d'extrêmement intègre, qui a extrêmement souffert. Il croit en Dieu et il ne comprend pas pourquoi le malheur s'est abattu sur lui. Mais il refuse de faire des reproches à Dieu. Alors des amis sont venus lui rendre visite pour le plaindre et le consoler, mais quand il voit Job, il ne trouve pas de mots à lui dire. Après 7 jours et 7 nuits de silence, c'est finalement Job qui trouve les mots et qui prend la parole pour se plaindre et pour exprimer une profonde et poignante lamentation. Et ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Job a donc rompu le silence. Et on a bien compris, en écoutant sa lamentation, on a bien compris avec beaucoup d'émotion que Job a besoin de soutien et de consolation. Il a besoin d'aller mieux. Mais on ne sait pas comment ça va arriver à ce stade du texte. Et là, il y a un des amis de Job qui va enfin prendre la parole. Et en lisant le récit, on est censé être suspendu à ses lèvres. Enfin, quelqu'un va dire quelque chose à Job. Quelqu'un s'est laissé toucher par la complainte de Job. Mais au risque de gâcher le suspense cet après-midi, vous allez voir qu'on va être très déçus. On va être très déçus. L'ami de Job, qui s'appelle Eliphaz, va administrer à Job une sagesse prétendue qui va en fait enfoncer Job encore plus dans ses souffrances. Une sagesse qui tue. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la vraie consolation dans nos souffrances, c'est quelque chose de très délicat à donner et de très difficile à trouver. La vraie consolation dans nos souffrances, c'est quelque chose de très délicat à donner et de très difficile à trouver. Mais il y a quand même une vraie consolation qui existe pour ceux qui souffrent et on verra quoi dans un instant. Job, donc, Il va s'entretenir pendant plusieurs chapitres avec ses amis, c'est les chapitres 4 à 26 du livre. Et ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est qu'on va regarder successivement chaque intervention des amis de Job, avec à chaque fois la réponse de Job. Voici donc, pour commencer, la première intervention d'Éliphaz et Job qui lui répond juste après. Et on trouve ça dans le livre de Job au chapitre 4. Accrochez-vous, ouvrez vos Bibles, gardez-les ouvertes au chapitre 4 à 7, parce qu'on va lire intégralement les chapitres 4, 5, 6 et 7. Éliphaz de Théman prit la parole et dit « Si l'on tente de prononcer une parole, en seras-tu lassé ? Mais qui pourrait retenir ses propos ? Voici que tu as donné des leçons à beaucoup, tu as fortifié les mains languissantes, tes propos ont relevé ceux qui trébuchaient. Celui qui trébuchait, pardon, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu te lasses ? Maintenant que cela te touche, tu te troubles ? Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance n'est-ce pas l'intégrité de tes voies ? Souviens-toi donc, quel est l'innocent qui a péri ? Et où les hommes droits ont-ils disparu ? Comme je l'ai vu, ceux qui labourent l'injustice et qui sèment ce qui est pénible en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement du lion, le cri du jeune fauve et les dents des lionceaux se brisent. Le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en aperçut les sons légers. Au moment où des pensées inquiètes proviennent des visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la peur et le frémissement m'ont atteint et tous mes os ont tremblé. Un souffle passait sur ma face. Les poils de mon corps se hérissèrent. Quelqu'un se tenait là. Je ne reconnaissais pas son aspect. Une silhouette était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Un mortel serait-il juste devant Dieu ? Un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il découvre des erreurs chez ses anges, combien plus chez ceux qui demeurent dans les maisons d'argile, eux dont les fondements sont dans la poussière et qu'on écrase comme une teigne. Du matin au soir, ils sont frappés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, mais non avec sagesse. Crie maintenant, y a-t-il quelqu'un qui te répondra ? Auquel dessein t'adresseras-tu ? Car l'irritation tue celui qui est stupide, et la jalousie fait mourir l'imbécile. J'ai vu le stupide prendre racine, et soudain j'ai eu sa demeure en exécration. Ses fils s'éloignent de la voie du salut. Ils sont condamnés au tribunal, et personne qui les délivre. Les affamés dévoreront sa moisson, et viendront l'enlever jusque dans les épines. Des hommes assoiffés engloutiront sa fortune. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la peine ne germe pas du sol. L'homme est né pour la peine, comme les étincelles s'élèvent pour voler. Pour moi, je rechercherai Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie à la surface de la terre et envoie l'eau à la surface des champs. Il relève ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont dans la tristesse parviennent au salut. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent leur assurer le succès. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et le conseil des hommes astucieux ne fait pas long feu. Eux qui rencontrent les ténèbres en plein jour et tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. Mais lui, il sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de la main du puissant. Alors, pour le faible, il y a de l'espérance, mais l'injustice ferme la bouche. Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend, ne refuse pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la blessure et qui la panse. Il écrase et ses mains guérissent. 6 fois il te délivrera de la détresse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te libérera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la disette. Ne crains pas les animaux de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les animaux des champs seront en paix avec toi. Tu reconnaîtras que la paix sera sous ta tente. Tu visiteras ton pâturage et il ne te manquera rien. Tu reconnaîtras que ta descendance sera nombreuse et que tes rejetons seront comme l'herbe de la terre. Tu entreras dans la tombe en pleine vieillesse, comme on élève un tas de gerbes en son temps. Voilà ce que nous avons découvert. C'est ainsi à toi d'entendre et de le reconnaître. Job répondit, « Oh, s'il était possible de peser ce qui m'irrite, et si l'on mettait toutes mes calamités ensemble sur une balance, elles seraient maintenant plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles sont inconsidérées. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon esprit en boit le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage va-t-il braire auprès de l'herbe tendre ? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage ? Peut-on manger ce qui est fade, sans sel ? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ? Ce que je refusais de toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse ma demande s'accomplir et que Dieu réalise mon espoir. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. J'aurai encore cette consolation et je sauterai de joie. malgré ma douleur inexorable, c'est que je n'ai pas renié les paroles du saint. Quelle est ma force pour que j'attende et quelle sera ma vie pour que je prolonge ma vie? Ma force est-elle une force de pierre? Ma chair est-elle de bronze? Ne suis-je pas sans secours? Toute ressource n'est-elle pas bannie loin de moi? Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont trahi comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Ils ont des os troubles à cause de la glace. La neige s'y cache. Au temps de la chaleur, ils tarissent. Au feu du soleil, ils se dessèchent sur place. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma les fixent du regard. Les convois de Saba y comptent. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confus quand ils arrivent. C'est ce que vous êtes maintenant. Vous voyez ma terreur et vous avez de la crainte. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens, faites-moi échapper à la main de l'adversaire, libérez-moi de la main des violents. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi je me suis égaré. Que les discours droits sont persuasifs, mais que prouvent vos reproches? Pensez-vous faire des reproches à mes propos et lancer au vent les discours d'un désespéré? Vous jetteriez le sort même sur un orphelin et vous donneriez en échange votre ami. Et maintenant, veuillez vous tourner vers moi. Vous mentirai-je en face? Revenez, je vous en prie, ne soyez pas injuste. Revenez, ma justice existe encore. Y a-t-il de l'injustice sur ma langue? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas les calamités? Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat? Et ses jours ceux d'un salarié? Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme le salarié attend sa rémunération. Ainsi, j'ai pour héritage des mois de douleur. J'ai pour mon compte des nuits de peine. Lorsque je me couche, je dis « Quand me lèverai-je » Et lorsque le soir se prolonge, alors je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se décompose. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne m'apercevra plus. Tes yeux me chercheront et je ne serai plus. La nuée s'évanouit, elle s'en va. Ainsi, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et son domicile ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses une garde autour de moi? Quand je dis « mon lit me consolera, ma couche calmera ma plainte », alors tu me terrifies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Je souhaiterais l'étranglement, oui, la mort plutôt que ses os. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car mes jours ne sont que vanité. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu le prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi suis-je à charge à moi-même? Que n'enlèves-tu mon crime? Et ne laisses-tu passer ma faute? Car maintenant, je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Merci d'avoir tenu bon jusqu'ici. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, instruis-nous maintenant. Enseigne-nous à consoler d'une manière efficace et à recevoir la vraie consolation dans nos souffrances. Utilise ce texte pour cela, pour nous éclairer et nous édifier. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, quatre chapitres, quatre points. Premier point. Face à la souffrance, on peut être tenté de trouver trop facilement une explication. Eliphaz y prend donc la parole. Il vient de Théman, nous dit le texte, c'est-à-dire un endroit réputé à l'époque pour l'intelligence de ses habitants. Un peu comme si on disait aujourd'hui Eliphaz de l'université d'Harvard ou Eliphaz de l'université d'Oxford prit la parole et dit. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Eliphaz, cet homme sage qui répond le premier à Job, sans doute parce qu'il a cette stature supérieure en expérience et en sagesse par rapport aux autres amis? Et il dit, chapitre 4, donc, « Job, je ne vais rien t'apprendre de nouveau, puisque toi-même, tu as souvent eu l'occasion de venir en aide à des gens qui souffraient. » Versets 1 à 6. « Et tu sais bien que quand on sème le vent, on récolte la tempête. Hein, on commet le mal et Dieu nous punit. » Versets 7 à 11. « C'est comme ça que ça marche, Job. J'ai d'ailleurs fait un rêve récemment. Un rêve curieux où un être spirituel, c'est donc, c'est fiable, un être spirituel m'a rappelé que même si on a l'impression d'être fidèle à Dieu, en fait, il y a forcément des péchés quelque part dans notre vie. » Et si on prétend l'inverse, c'est qu'on est spirituellement aveugle. Alors ce qui est en train de se passer, ici, tout simplement, au chapitre 4, donc, c'est qu'Eliphaz prétend avoir l'explication de tout le malheur qui s'est abattu sur Job. Alors il essaye un peu d'être diplomate, hein, mais ce qu'il veut dire à Job, c'est que s'il y a tous ces trucs qui ne vont pas dans sa vie, C'est parce qu'il a dû commettre un péché. Il a dû faire le mal quelque part. C'est obligé. Avec un Dieu souverain et bon, en fait, ce ne serait pas juste, ce ne serait même pas possible que quelqu'un qui ne le mérite pas souffre comme ça, souffre à ce point comme Job. Souviens-toi donc, Job, verset 7, quel est l'innocent qui a péri, franchement? Tu connais un innocent qui a péri? Pour Eliphaz, vous voyez, l'explication est facile. C'est le fameux principe de rétribution. Tu commets le mal et t'es châtié. Inversement, si t'es châtié, c'est que t'as commis le mal. Le problème, c'est que nous, en tant que lecteurs de cette histoire, si on a lu les premiers chapitres de ce livre, on sait que c'est pas vrai, puisque le prologue, les chapitres 1 et 2, ont servi justement à nous expliquer que Job était l'être humain le plus juste du monde et qu'il avait complètement la faveur de Dieu. Dieu a dit à son sujet, dans ces deux premiers chapitres, par deux fois il dit « Il n'y a personne comme Job sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » C'est Dieu qui parle de Job. Donc quand on découvre ce que pense Eliphaz, on est censé faire un facepalm. Là, on est censé se prendre la tête dans la main, dans les mains. N'importe quoi, Eliphaz. Ton explication est trop facile, elle est simpliste, elle est naïve, elle est réductionniste, comme s'il y avait un rapport mécanique entre notre niveau de fidélité ou d'infidélité à Dieu et notre niveau de bonheur ou de malheur dans la vie. Eliphaz, il y a des choses que tu ne sais pas. Manifestement, tu n'as pas lu les premiers chapitres de ce livre, Eliphaz. Et parce que tu ne sais pas ces choses, ça te fait court-circuiter le projet même de Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas intégrées dans ta théologie, Eliphaz, et ça fait que ta théologie est déficiente. Malgré tes certitudes, tu es à côté de la plaque, Eliphaz. Alors ça me fait penser, moi, à un pneumologue, allergologue qu'on a consulté il n'y a pas très longtemps pour des allergies chez un de nos enfants. Pour ce médecin que je mets entre guillemets, il était impossible que notre enfant ait des allergies. C'était pour sûr, nous disait-il, une sinusite chronique. Il lui a posé des questions, le médecin a posé des questions à notre enfant, du genre, mais quand ton nez, il coule, c'est jaune ou c'est transparent? C'est transparent. Non mais des fois c'est jaune. Oui, c'est jaune quand j'ai un rhume. Ah, j'en étais sûr! Une sinusite chronique, je vous dis. Le médecin lui a donc prescrit un scanner des sinus, qui a révélé qu'il n'y avait pas de sinusite. On est donc retourné voir le médecin avec le rapport du radiologue, et je vous passe les détails qui sont dignes d'un sketch, mais en découvrant le rapport du radiologue, notre pseudo-allergologue a pris un stylo et il a barré ce que le radiologue avait écrit et il a mis à la place que notre enfant souffrait bel et bien de sinusite chronique. Et juste pour vous donner le fin mot de l'histoire, on est allé ensuite voir un autre allergologue, un vrai, qui a fait tester notre enfant et qui lui a trouvé effectivement plusieurs allergies, ce dont on se doutait dès le départ, nous, ses parents, parce qu'on connaît bien notre enfant et on connaissait bien ses symptômes. Mais vous comprenez, parfois les gens sont tentés de trouver et de proposer très facilement une explication au malheur des autres, souvent pour des raisons idéologiques, souvent parce qu'on a des préjugés, mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Même quand on est médecin, même quand on est pasteur, quel que soit notre statut ou notre métier, et surtout si on est chrétien, on doit aborder la souffrance des autres avec une grande humilité. On doit mettre en suspens nos certitudes. On doit écouter, on doit être attentif, on doit être prudent. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Quoi qu'on en pense, la personne qui souffre est mieux placée que nous pour nous parler de sa souffrance. Et même là, il y a des choses que la personne qui souffre n'arrive peut-être pas à exprimer, ou peut-être qu'elle les exprime mal. Et il n'y a peut-être tout simplement pas d'explication à donner, ou à chercher, en tout cas pas encore. Face à la souffrance, donc, on peut être tenté de trouver trop facilement ou trop rapidement une explication. Deuxièmement, on peut être tenté de proposer trop facilement une solution. C'est logique, en fait, et ça découle du premier point. Et c'est ce que fait Eliphaz au chapitre 5. C'est encore lui qui parle. Chapitre 4 et 5, c'est Eliphaz qui parle. 6 et 7, c'est Job qui parle. Chapitre 5, Eliphaz dit « Job, du coup, puisque j'ai l'explication à tes souffrances, ça ne sert à rien de se lamenter. » Arrête de te plaindre, Job, comme s'il t'arrivait un truc injuste. Rends-toi plutôt à l'évidence. Si tu souffres, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Versets 1 à 7. Tourne-toi donc vers Dieu. Il est grand et il pardonne. Versets 8 à 16. Accepte avec reconnaissance sa correction. Repens-toi et tu verras. Puisqu'il est bon, il va te relever. Il va te consoler, il va te bénir. Et ça ira beaucoup mieux après. Versets 17 à 27. On serait d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit Eliphaz là, non? Merci Eliphaz pour tes précieux conseils. Merci pour cette solution qui nous semble parfaitement logique et adaptée. C'est ce qu'on appelle en théologie pratique le principe du taka. Taka, t'humilier devant Dieu. Taka, prier plus. Taka, aller à l'église. Taka, lire ta Bible. Taka, arrêter de pécher. En fait, taka, faire comme Jésus finalement. Le principe du taka. Malheureusement, le principe du taka ne nous amène jamais bien loin. surtout quand on est en proie à de grandes, grandes souffrances. J'ai été trahi par mon conjoint et j'ai beaucoup de colère dans le cœur. T'as qu'à lui pardonner et ça ira mieux. 5 ans après, je me suis toujours pas remis de la disparition de mon enfant. T'as qu'à penser à tes autres enfants, c'est malsain ce que tu fais. Je suis tourmenté par un amour impossible. T'as qu'à mettre une croix dessus et passer à autre chose. J'ai des douleurs chroniques qui sont tellement handicapantes. T'as qu'à changer de médecin aussi, pourquoi tu gardes le même s'il n'a pas réussi à te guérir? Je suis tellement déprimé que la mort m'est préférable à la vie. T'as qu'à te repentir de ton manque de foi et revenir à Dieu. En fait, le principe du taka, s'il arrive à produire quelque chose, c'est un sentiment de culpabilité. Ce qui est sous-entendu dans les conseils d'Eliphaz, c'est que ça pourrait aller mieux pour Job si seulement il faisait ce qu'il fallait pour. Et c'est un piège pour Job. Hein? Soit il se repent pour aller mieux, et donc il valide l'accusation de son ami qui lui reproche d'avoir forcément fait quelque chose de mal pour mériter tous ses malheurs. Soit il se repent pas, et s'il continue de souffrir, c'est donc de sa faute puisqu'il n'a pas voulu suivre les conseils de son ami. Job est perdant dans tous les cas, vous comprenez? Et c'est un piège qui sert en fait les intérêts du diable dans cette histoire, de Satan qui se plaît depuis le départ à accuser Job, à accuser les fidèles en général en fait, mais Job en particulier dans cette histoire. Donc si Job valide les accusations d'Éliphaz, ça fera plaisir au diable qui est appelé dans les Écritures l'accusateur des frères et le père du mensonge. Donc ça lui fera plaisir. Mais d'autre part, le diable, il attend qu'une chose dans cette histoire, c'est que Job craque sous l'effet du désespoir et qu'il se détourne de Dieu. Donc c'est tout à fait dans l'intérêt du diable d'ajouter aux souffrances de Job et de l'attirer dans ce piège qui se referme sur lui et de l'attirer là-dedans par l'intermédiaire même des personnes qui lui sont le plus proches, comme c'était déjà le cas avec sa femme au chapitre 2 et maintenant avec ses amis. Et en fait, c'est sûrement pas un hasard si Eliphaz a été influencé dans ses conseils par une révélation ésotérique au chapitre 4. Hein. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille sur l'origine de cette soi-disant sagesse. En tout cas, nous aussi, aujourd'hui, on peut être tenté de proposer trop facilement une solution aux gens qui souffrent. Et ça provient certainement de bonnes motivations. On a de la peine pour notre prochain. On aimerait qu'il aille mieux. Et on est persuadé que s'il faisait ceci ou s'il prenait cela à cœur, ça irait mieux. On sous-entend que cette personne ne se donne pas les moyens d'aller mieux. Et qu'il dépend d'elle d'aller mieux. Et ça, ça peut faire très, très mal à la personne qui souffre. Il y a deux psychologues chrétiens qui s'appellent Larry Crabb et Dan Allender. J'ai déjà cité Larry Crabb la semaine dernière. Ensemble, ces deux psychologues ont écrit un très bon livre traduit en français sous le titre « L'encouragement ». Alors, la traduction n'est pas terrible, mais le contenu est très bon. Le titre, c'est « L'encouragement ». Et dans ce livre, qui donne beaucoup d'excellents conseils pratiques pour savoir encourager efficacement nos proches qui traversent des difficultés, eh bien, ils disent ceci. Ils disent « Nous attribuons le devoir de résoudre les problèmes de l'autre. Et nous ressentons alors la tension de devoir trouver une solution. Notre erreur est de croire que celui qui expose un problème nous demande forcément une solution. » Et ils disent « Les chrétiens doivent s'imprégner de la vérité apparemment insaisissable, que conseiller sans comprendre ne sert de rien, qu'il s'agit même d'une forme de rejet. » Facile donc de trouver une explication et facile aussi de proposer une solution. Mais c'est pas bien. Parce que dans tout ça, il est facile en fait de manquer de compassion. De manquer de compassion. Et c'est le troisième point. Celui qui souffre, il n'a pas d'abord besoin d'une explication ni d'une solution. Il a d'abord besoin de compassion. C'est comme dans la chanson « Rappelle-moi que tu es là » de Jason Gray, un chanteur chrétien, qui dit dans le refrain « J'ai pas besoin d'explications parce que ce ne sont pas des explications qui vont essuyer mes larmes. » C'est notre sœur Trina de notre église qui a attiré l'attention de notre groupe de maison sur cette chanson qu'elle a commentée en fait il y a quelques mois dans l'émission « Saveurs anglophones » qui passe sur la radio Phare FM, fréquence 107.0, je vous conseille cette radio, réglez-la dans votre voiture et écoutez-la. En tout cas, chapitre 6, Job prend maintenant la parole pour répondre à Eliphaz. Et à travers Eliphaz, il répond aux deux autres amis, ce qui montre qu'Eliphaz était en effet un peu comme le porte-parole des trois compères. Et il dit, alors au début, on ne sait pas exactement à qui il parle Job, mais ce qui est sûr, c'est que ses amis entendent. Et il commence par dire, verset 1 à 7, « Clairement, personne ne comprend vraiment à quel point je souffre. » Tout ce qui me ferait plaisir sérieusement, c'est que Dieu m'achève. Versets 8 à 13. Tuez-moi, j'en peux plus. En fait, Job réagit au conseil d'Éliphaz et c'est vraiment un facepalm royal. J'en peux plus, mais achevez-moi, c'est pas possible, tuez-moi. Ils sont bêtes, ces amis. Et ensuite, il dit, versets 14 à 23, « Je m'attendais au moins à un peu de compassion de votre part, sérieux. Ma déception est comme celle d'un gars qui aurait très soif et qui sait qu'il y a une source d'eau fraîche à une journée de marche dans cette direction, et il y va en se fatiguant et en transpirant, mais quand il arrive, la source est desséchée. » C'est ça l'image qu'il emploie dans le texte. « Qu'est-ce que c'est cruel ! Il se disait, ce gars, que cette source, il connaissait bien, lui donnerait au moins quelques gouttes d'eau. Et moi, je me disais que vous, mes amis, vous me donneriez au moins quelques gouttes de compassion. » C'est tout ce que j'espérais. Job continue, versets 24 à 30, et répond alors plus précisément au reproche qu'Éliphaz lui a fait, à savoir qu'il a forcément dû faire quelque chose de mal pour que le malheur lui tombe dessus comme ça. Et donc Job demande à ses trois amis, « Allez-y alors, dites-moi exactement ce que j'ai fait de mal. Vous êtes tellement sûr de vous. Allez-y ou alors arrêtez de me juger comme ça. » Donc vous voyez ce qui se passe dans le texte. Job est malheureux parce que ses propres amis le jugent au lieu de l'écouter, au lieu de prendre à cœur ses paroles, au lieu de lui faire confiance. Et Job, il dit quelque chose de très fort, en fait, au verset 14 hein, du chapitre... On est où, là? Chapitre 6. Alors, c'est un verset qui présente quelques ambiguïtés. Il n'est peut-être pas traduit de la même manière dans votre version, mais moi, dans ma version, il dit « Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Donc, Job, il dit « Même si, en fait, j'ai péché contre Dieu, vous devriez quand même avoir de la compassion pour moi. » Peut-être qu'il faut plutôt traduire « Celui qui prive son ami de compassion abandonne la crainte du Tout-Puissant, on n'est pas sûr. » Mais dans les deux cas, on comprend bien que les amis de Job ont manqué de compassion et c'est précisément ce qui fait si mal à Job. Et il nous est facile aussi de manquer de compassion. Il nous est facile de juger au lieu de compatir. Il nous est plus facile de donner des conseils que de pleurer avec ceux qui pleurent. Et ça d'ailleurs, ça se voit beaucoup dans le mariage, dans la relation d'un mari avec sa femme. Écoute chérie, laisse-moi te dire ce qu'il faut que tu fasses pour que ça aille mieux. Mais j'en ai rien à faire de tes conseils. Tiens-moi juste dans tes bras, lamente-toi avec moi et serre-moi contre ton cœur. Peut-être que ça arrive que dans mon mariage, je ne sais pas. André Adoul, qui était un évangéliste sévenol avec un grand cœur, il est décédé maintenant. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui est intitulé « Échec à la dépression ». Et dedans, il dit que les personnes atteintes de dépression redoutent généralement les visites, notamment parce que ces personnes se savent rarement comprises. Et André Adoul nous avertit contre certains types de visites et de pseudo-encouragements qui font plus de mal que de bien. Par exemple, il dit, il y a les visiteurs « avertis », entre guillemets, qui multiplient les conseils comme s'il suffisait de dire pour faire. Écoutez plutôt, « Sois donc optimiste comme moi, ne pense plus à ton mal, aie la volonté de prendre la vie du bon côté, mange de bon appétit. » Il te faut beaucoup dormir, couche-toi de bonne heure, sans penser à rien. Langage exaspérant, dit-il. Si le patient pouvait, il y a belle lurette que la dépression l'aurait quitté. Puis un peu plus loin, il dit, il y a les visiteurs qui accusent. Ce sont les pires. Bible en main, il tranche. Un chrétien ne doit pas être déprimé. Si tu en es là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Certainement un interdit caché. Cherche! Tu n'en sortiras pas aussi longtemps que tu ne mettras pas ta vie en règle devant Dieu. Langage odieux d'un orgueilleux sans cœur, dit-il. Ce qui nous amène au dernier point. Quand on trouve trop facilement une explication à la souffrance d'un malheureux, quand on propose trop facilement une solution et quand on manque de compassion, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on empire facilement la situation. Au chapitre 7, c'est toujours Job qui parle, mais il ne parle plus à ses amis. Ou du moins, il le fait indirectement. Et il va formuler de nouveau une terrible lamentation. Versets 1 à 6, « Je suis tellement, tellement malheureux et désespéré. » Versets 7 à 10, « Ma vie va s'éteindre et elle aura été complètement vaine. » Versets 11 à 21, « Pourquoi Seigneur ?» Là, il parle à Dieu. « Pourquoi Seigneur, est-ce que tu t'acharnes contre moi ? Pourquoi tu m'envoies tous ces malheurs ?» Et il inclut dans ses malheurs ses amis. Il ne me semble pas avoir péché, Seigneur. J'ai aucun répit, aucun repos, et j'attends qu'une chose maintenant, c'est la mort. Alors ce qu'il faut voir, c'est que Job s'enfonce encore plus dans le désespoir à ce stade du récit. On pouvait espérer On pouvait espérer, la semaine dernière, jusqu'à ce qu'Eliphaz prenne la parole, on pouvait espérer que les amis de Job lui procurent un soutien, un encouragement, une consolation. Mais cette première intervention, c'est un coup de massue, pour nous comme pour Job. On dit parfois, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et son ami, Eliphaz, le porte-parole des autres, il l'a scié, il l'a cassé. Involontairement, certes, mais il l'enfonce dans le désespoir. C'est un coup de poignard. Vous voyez, quand quelqu'un souffre, c'est facile d'empirer la situation. Ça me fait penser à ces personnes victimes de maltraitance et d'abus. On entend parler des fois de femmes qui ont été agressées sexuellement et qui sont traumatisées, qui vont porter plainte et à qui on répond « Ah, mais vous l'avez un peu cherché quand même, non? Vous auriez peut-être pas dû vous habiller comme ça. Vous auriez peut-être pas dû sortir si tard. Vous auriez pu résister plus. Vous auriez pu appeler à l'aide. » Un coup de poignard, je vous dis. La personne qui est censée vous écouter, vous consoler, vous défendre, la voici qui vous accuse à son tour. Le traumatisme est aggravé et le désespoir empire. Et c'est ce qui arrive à Job dans le texte. Et nous aussi, aujourd'hui, on doit bien se rendre compte que si on n'écoute pas notre prochain qui souffre, si on ne reçoit pas inconditionnellement sa complainte, mais si à la place on s'érige en donneur de leçons, si on se fait l'interprète de ses souffrances, ou pire, si on prend les choses en main sans chercher à comprendre, en étant convaincu de savoir de toute façon ce qu'il lui faut à ce pauvre bougre, puis il me remerciera plus tard, eh bien en fait on va empirer la situation. Bien souvent quand on est dans la souffrance, on a déjà honte d'aller mal, et on culpabilise pour cette raison. On se dit qu'on n'a pas assez de foi. On se dit que notre relation à Dieu n'est pas assez solide. Et puis il y a toujours une petite voix qui nous accuse à l'intérieur en nous suggérant qu'on mérite certainement ce qui nous arrive. Du coup, on a du mal à en parler. On a du mal à ouvrir notre cœur. On a peur de montrer notre faiblesse. On a peur de révéler nos doutes, nos états d'âme, notre fatigue. On a peur de poser ouvertement les questions qui nous empêchent de dormir la nuit. On a peur de faire ça. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour en arriver là? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que même j'ai le droit, en fait, de me plaindre en tant que chrétien? Est-ce que c'est normal que j'arrive pas à prier? Est-ce que c'est péché de ressentir ce que je ressens en ce moment? Et si on se livre à un ami proche, si on se livre à un conjoint, à un parent ou à son pasteur, et qu'en face, l'oreille n'est pas attentive, le cœur n'est pas sensible, l'esprit n'est pas humble, les bras ne sont pas ouverts, la compassion n'est pas inconditionnelle, alors on s'enfonce encore plus dans la solitude, parce que clairement, personne donc ne peut me comprendre. Mais regardez Job. Il se passe quelque chose de remarquable, en fait, dans ce passage. L'intervention d'Eliphaz a quand même eu un effet positif. Job se plaint de plus belle, certes, mais à la différence du chapitre 3, cette fois, Job adresse sa complainte à Dieu, au chapitre 7. Job découvre, avec cette première intervention de son ami Eliphaz, qui parle au nom des autres, il découvre que même ses amis les plus proches ne le comprennent pas. Et la foi de Job refait surface à ce moment-là. Il a été dépouillé de tout, même de la compassion qu'il pouvait espérer de la part de ses amis, et ce dépouillement le ramène à Dieu en quelque sorte. Et la foi de Job s'exprime justement dans le fait qu'il s'adresse à Dieu avec tant de véhémence et d'audace. Pourquoi ? Parce que le texte nous a déjà dit qu'il craignait Dieu. En fait, ça ne veut pas dire qu'il a peur de Dieu, ça veut dire qu'il a confiance en lui. Dans le livre intitulé « Pourquoi faut-il souffrir ?» que Vincent m'a prêté cette semaine, le prof de théologie Dan McCartney dit ceci. Il dit « Dans le silence et les ténèbres, une supplication si passionnée et un tel tambourinement aux portes du ciel sont précisément ce que la foi doit produire. » Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on doit faire quand on se sent incompris dans notre souffrance. On peut et on doit adresser nos lamentations à Dieu. On peut verbaliser nos souffrances à Dieu. On peut les verbaliser imparfaitement et Dieu les comprend quand même. Et c'est ce que commence à faire Job ici. Et c'est une des différences qu'on va remarquer entre Job et ses amis. Eux vont parler de Dieu et Job va parler à Dieu. Mais je veux terminer sur un point qui est de la plus haute importance. C'est que nous, on est mieux placés que Job pour recevoir une vraie consolation. Job est perplexe dans son malheur et il peine à trouver la vraie consolation. Et la question d'Eliphaz le tourmente et l'accuse. Quel est l'innocent qui a péri, franchement, Job ? Pour Eliphaz, c'est une question rhétorique. Bien sûr que jamais un innocent n'a péri. Ce serait contraire à la justice de Dieu. Donc, tu n'es pas innocent, Job. T'as qu'à te repentir. Mais nous, on existe en 2020 à un moment dans l'histoire où on a un autre point de vue sur le projet de Dieu. En fait, il y a un innocent qui a péri. Et c'était voulu par Dieu. Et il était encore plus juste que Job. C'est Jésus-Christ. Jésus était absolument pur, absolument intègre et droit. Il a toujours obéi parfaitement à Dieu. Et pourtant, le malheur s'est abattu sur lui. Il a été accusé, trahi, humilié, battu, abandonné de ses amis, torturé et supplicié. Il a souffert physiquement à l'extrême. Mais le pire, ce n'était pas ses souffrances physiques, c'était ses souffrances morales. Au paroxysme de sa douleur qui assaillait son hypothalamus, il était alors, à ce moment-là, incompris de tous, y compris des personnes qui lui étaient les plus proches. Personne n'a soutenu Jésus, personne n'a été là pour lui lorsqu'il a souffert l'agonie. Donc c'est pas vrai que jamais le malheur ne s'est abattu sur un innocent. La preuve, regardez la croix. Et si Jésus a subi ces choses, c'est parce que Dieu voulait justement s'approcher des malheureux et leur offrir son secours. Il a voulu s'approcher des Job que nous sommes, non pas pour nous donner des explications, parce que les explications, ça essuie pas les larmes, mais pour nous ouvrir ses bras et nous accueillir auprès de lui. Jésus, lui, il pleure avec ceux qui pleurent, parce qu'il a tant souffert lui-même, et il est ressuscité pour nous préparer un avenir meilleur dans son paradis. Et c'est ce qui fait qu'on peut traverser les épreuves avec une véritable espérance aujourd'hui. Une espérance, j'ai envie de dire, mieux attestée que celle qu'avait Job. On peut tous, qu'on soit malheureux ou non en fait, nous tourner vers Dieu, lui remettre notre vie, lui demander pardon pour notre égocentrisme et pour tous les efforts qu'on fait pour vivre sans lui. On peut, en nous tournant vers lui, on peut lui dire tous nos états d'âme. Il ne sera pas choqué. Lui nous comprend parfaitement. Et il a tellement compassion de nous. Comme on l'a vu aujourd'hui dans ce texte. La vraie consolation dans nos souffrances, c'est quelque chose de très délicat à donner et de très difficile à trouver. Mais il y a quand même une vraie consolation qui existe pour ceux qui souffrent. Et cette consolation se trouve auprès de Jésus. Puissions-nous trouver et recevoir cette consolation dans nos souffrances et nous sentir compris de Dieu. Mais puissions-nous aussi être des instruments de consolation dans la vie des autres, en les écoutant, en les accueillant et en les aimant de la part de Jésus. Dans son livre sur la souffrance intitulé « Jusqu'à quand ?», le théologien Don Carson écrit ceci, et je vais terminer avec cette citation. « Tous ceux qui sont passés par le creuset de la souffrance ont rencontré à un moment ou un autre de leur cheminement des descendants des piètres consolateurs de Job. » Ils vous récitent leurs clichés et leurs formules pieuses et rebattues. Ils engendrent la culpabilité là où ils devraient verser un baume. Ils assènent des vérités sur un ton solennel alors que c'est de compassion que vous avez besoin. Ils sont forts et vous exhortent à être courageux, mais vous serez d'un plus grand secours s'ils pleuraient avec vous. Les meilleures réponses à la souffrance sont souvent la présence, l'aide pratique, le silence, les larmes. Il est parfois beaucoup plus spirituel de bêcher le jardin ou de préparer un gratin pour le déjeuner que de citer Romains 8, 28. Amen. Prions. Seigneur, on a besoin d'être interpellés et parfois remis à notre place et nous confessons, Seigneur, que nous avons tous été des amis de Job. Pardonne-nous, Seigneur, enseigne-nous la compassion, inspire-nous, j'ai envie de dire, la compassion pour ceux qui souffrent. Et si c'est nous qui souffrons, alors Seigneur, aide-nous à trouver notre consolation en Christ avant tout. Mais aide-nous effectivement à offrir une consolation en ton nom à tous ceux qui sont autour de nous, qui sont dans la souffrance. Aide-nous à être attentifs, à écouter, à pleurer tout simplement avec ceux qui pleurent. Et nous te prions cela au nom de notre consolateur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.